Figaro Radio.
Le Buzz TV.
Damien Canivez.
Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah.
Salut Damien.
Allez, aujourd'hui nous accueillons dans ce studio l'un des responsables politiques qui cumule peut-être l'un des temps d'antenne les plus importants. Vous l'apercevez régulièrement sur les chaînes d'information en continu, CNews en particulier. Et au début du mois de février, il a dit oui à l'un des animateurs les plus commentés du PAF. Bonjour Julien Odoul.
Bonjour.
Bienvenue sur ce plateau, c'est un plaisir de vous recevoir
plaisir
ici.
Plaisir partagé. Alors vous êtes... encore cumulé aussi.
Ah oui, là vous cumulez encore. Bah, c'est bon, vous êtes absolument sur toutes les chaînes, c'est incroyable. Maintenant sur le Figaro TV, vous êtes député de Lyon, porte-parole du Rassemblement National, et le 3 février dernier, vous avez intégré la bande de Face à Hanouna, l'émission présentée par Cyril Hanouna chaque samedi et dimanche sur C8. Alors je précise que dans cette émission, contrairement à toutes celles et ceux qui vous entourent, vous n'avez pas le statut de chroniqueur, puisque vous ne percevez pas de rémunération pour cette activité. Pour quelle raison? Vous n'aimez pas l'argent en fait? C'est ça?
Oui, c'est bien de le préciser. Je suis invité politique, oui. Et je ne suis pas chroniqueur, donc je ne suis pas payé par la chaîne.
Vous devriez demander, non? Vous faites avoir?
Non, il y a une incompatibilité, c'est contraire à toute déontologie, et c'est très bien ainsi, et moi je veux rester invité politique. Mon métier, en tout cas ma fonction, c'est député, c'est porte-parole du Rassemblement National. Je suis invité par Cyril dans le cadre de ses émissions où j'exprime mon avis librement. Je ne suis pas invité tout le temps, voilà, ce sera de temps à autre, comme je l'étais avant dans TPMP. Et c'est très bien ainsi d'avoir cette liberté. On n'est pas, enfin, je ne suis pas seul, puisqu'il y a Laurent Saillé aussi qui est dans cette situation. Et c'est un mix entre chroniqueur et invité politique, donc c'est pas le même langage, c'est pas le même discours, c'est plutôt complémentaire.
Et pourquoi déontologiquement ça poserait un problème? Parce que c'est vrai que vous n'avez pas le droit d'occuper des fonctions de direction dans des entreprises nationales, des établissements publics nationaux ou des établissements qui recevraient des subventions de l'État. Là, en l'occurrence, en tant que chroniqueur dans une boîte de production qui est H2O Production, ça ne devrait pas poser de problème, mais déontologiquement ça pose un souci, c'est
si, ça? Mais tous les invités politiques, quand ils se rendent sur une émission, dans un débat, oui. Ils ne sont pas financés par la chaîne.
Oui.
Voilà, ils ne sont pas rémunérés. Ah. Et je pense que c'est très bien qu'on ait cette différence et cette frontière pour pas qu'on se demande aussi finalement est-ce que le mandat électif n'est pas instrumentalisé par telle ou telle chaîne, tel ou tel média. Donc moi je suis porte-parole, je viens exprimer la parole de mon mouvement, nos propositions, je représente mes électeurs, Marine Le Pen, Jordan Bardella, mais en aucun cas voilà, je réponds à une ligne éditoriale qui est imposé par un média.
Et donc nous, on ne vous a pas non plus payé pour venir sur ce plateau.
Voilà, en tout
cas, vous nous avez pas encore donné votre
la mallette, mais
on n'a pas les moyens surtout.
C'est ça. On sort à vous. Vous avez les moyens, ça je le sais. Allez, on poursuit cette émission avec les news médias présentés aujourd'hui par Sarah Lecoeur. Infomédia avec Jean-Luc Reichmann, victime d'une tentative de cambriolage.
Oui, c'est le Parisien qui nous révèle l'information ce matin. L'animateur a été victime d'une tentative de vol cette nuit à son domicile de Neuilly-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine. Plusieurs individus ont été aperçus vers 2h20 du matin en train d'escalader la grille de la propriété. Ils ont tenté d'entrer à coups de pied de biche, hein, en forçant la porte, la fenêtre, avant de tomber nez à nez avec le fils de Jean-Luc Reichmann qui les a fait fuir. 5 individus ont été interpellés à Épinay-sur-Seine après une course-poursuite avec la police.
Décidément, quelle série noire. Après Cyril Lignac, Anne-Sophie Lapix, Nico Saliagas aussi, on peut en citer beaucoup. Que faut-il faire pour éradiquer cette montée, cette recrudescence de violence chez des célébrités, là, en plus, en particulier?
Alors, c'est la violence partout. Hein. Ce n'est pas que les célébrités qui sont visées. Alors, elles sont peut-être plus médiatisées et ça fait beaucoup plus de buzz quand vous avez une star, un acteur, un chanteur qui subit cela. Mais vous avez des millions de Français qui le subissent au quotidien, parce qu'on a un ensauvagement qui a explosé et on a une absence de dissuasion judiciaire. Donc finalement, quand il n'y a pas de sanctions, quand les peines ne sont pas appliquées ou exécutées, effectivement, ben vous avez une multiplication d'actes délictuels, de violences, de vols, de casses. Et d'ailleurs, on observe que c'est de plus en plus violent. Donc la réponse, c'est évidemment la réponse pénale, la sanction pour permettre la dissuasion et empêcher la multiplication de ces actes délictuels.
Vous avez déjà été victime de cambriolage à titre personnel ?
Pas moi, mais un certain nombre de ma famille, oui. Qui l'ont été. Et malheureusement, dans ma circonscription, dans mon entourage, c'est assez régulier. Dans la ruralité, on a une vague de cambriolage, les résidences secondaires, les entreprises, les fermes aussi, qui sont aujourd'hui victimes de cambriolage à répétition, de razzia, même, de razzia, effectif de gendarmerie insuffisant, réponse pénale insuffisante et donc impunité pour tous les délinquants.
Mais est-ce que vous avez peur, vous, au quotidien ? Parce que c'est vrai que vous êtes une personnalité médiatique, politique, du Rassemblement National. Est-ce que ce genre de problème dont a été victime Jean-Luc Reichmann, c'est quelque chose aussi qui peut vous hanter au quotidien ?
Alors, j'y pense jamais. Je n'y pense jamais. Alors, peut-être que je suis inconscient ou naïf, mais c'est vrai que dans le cadre de mon mandat, de mes activités, quand je suis sur le terrain, quand je me déplace, quand je vais à telle ou telle réunion, je ne pense jamais aux dangers potentiels. Ouais. Et je pense qu'il ne faut pas que j'y pense, parce que très clairement, ça pourrait être bloquant. Pourtant, je sais que ça existe. Oui. Je sais qu'on a des menaces, on reçoit des menaces de mort, via les réseaux sociaux, via par courrier, etc. Donc, il faut être prudent. Moi, j'ai surtout peur pour mes proches, pour ma famille.
Oui.
Voilà, et ça l'est d'autant plus que je suis papa depuis 9 mois maintenant. Oui. Et c'est vrai qu'on change un petit peu son inconscience qu'on avait avant, parce que finalement, on n'avait que sa petite personne. Maintenant, on a une famille. Donc, c'est un petit peu différent. Donc, c'est plus ma famille qui a peur pour moi, et j'ai plus peur pour ma famille.
C'est réciproque. Mmh. Allez, on poursuit ces infomédias, Sarah, avec Sandrine Rousseau, qui s'exprime sur l'affaire Gérard Miller.
Oui, car le psychanalyste, aujourd'hui accusé de violence sexuelle sous hypnose, est un proche de la députée et militante écologiste. Gérard Miller lui avait même apporté son soutien lors des primaires des Verts en 2021. Alors, invitée dans Quotidien hier soir, Sandrine Rousseau a été interrogée à ce sujet. Elle dit être tombée de sa chaise quand les accusations sont tombées. Je suis sentie extrêmement trahie, indique-t-elle. Il faisait partie de ces hommes qui avaient un discours sur MeToo, qui avaient un soutien aux femmes. Quand on voit ce qu'il sort, j'ai été non seulement trahie, mais très en colère également.
Bon, Sandrine Rousseau, ce n'est pas votre amie politique, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous ne trahissez pas un secret en révélant ce genre d'informations.
Ni politique,
ni dans la vie. Ah, la buvette de l'Assemblée, vous vous retrouvez
même
pas.
Même pas. Alors, je ne suis pas un adepte de la buvette, moi.
Ah bon
c'est
en
vrai
plus, voilà. Ah bon
vous êtes plutôt au restaurant, c'est ça
Même pas. C'est vrai que je passe en coup de vent et c'est vrai que l'activité parlementaire étant très riche et mes activités à côté aussi, c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps de s'attarder.
Vous n'avez pas trop le temps de vous attarder et de vous attabler. Bah alors, Sandrine Rousseau, cette prise de position-là, pour le coup, vous la rejoignez sans doute. C'est-à-dire que Gérard Miller, qui effectivement aujourd'hui est accusé d'agression sexuelle, c'est bien aussi que des personnes aujourd'hui se lèvent contre les violences faites aux femmes.
Oui, alors on observe que quand même à gauche et à l'extrême gauche, les violences faites aux femmes, on les regarde toujours avec un prisme un peu différent selon le profil.
Vous trouvez là pour Gérard Miller qu'il est traité différemment par les Libérations,
Disons que c'était très tardif. Déjà, c'était très tardif. Je pense que si Gérard Miller avait été estampillé à droite, je pense qu'il aurait été pulvérisé dans les 10 minutes. Voilà. Ouais.
Et Le Monde et Libération n'enquêtent pas sur Gérard Miller.
Oui, oui, mais comme à chaque fois, comme on a été extrêmement complaisant avec M. Quatennens, notamment, finalement, quand on est à gauche ou à l'extrême gauche, on a le droit de taper sa femme, c'est pas si grave. Voilà. Mais quand vous avez des personnalités, je citerai Gérard Depardieu, qui n'est pas condamné pour le moment, il y a eu une enquête, il y a eu des révélations, il y a eu des plaintes, c'est vrai qu'on est condamné a priori. Donc c'est vrai que moi, je déplore le deux poids deux mesures. Après, effectivement, pour Gérard Miller, ce qu'on peut dénoncer, c'est que ça a été un donneur de leçons pendant des années, qui a été insupportable, insultant dans les médias, qui avait des prises de position, qui a incarné la pureté à lui tout seul. Et on voit bien, quand on gratte un petit peu, le profil qui se cache derrière et qui n'est pas reluisant. On s'en fout.
Allez, on termine avec le chiffre du jour, 5 000.
C'est en euros la somme d'argent par mois avec laquelle aurait besoin de vivre Isabelle Balkany. Invitée chez Jordan Deluxe hier sur C8, la femme de Patrick Balkany a expliqué qu'ils rencontraient des difficultés pour entretenir leur propriété de Giverny. On est comme tous les Français, dit-elle. L'eau augmente, l'électricité augmente, on a du mal, on tire la langue comme tout le monde.
Et vous, vous tirez la langue, Julien Rodeau?
Je pense que le couple Balkany n'a pas le même niveau de vie que le ménage moyen. n'est pas soumis aux mêmes restrictions, que ce soit sur la nourriture, l'électricité, le chauffage ou l'essence.
Donc, c'est indécent, selon vous?
Oui, bien sûr que c'est indécent.
Non, mais tout est proportionnel. Elle a une grande maison à chauffer, donc
elle a des problèmes de riches.
Voilà, exactement, c'est ça.
Mais quand on voit la situation économique du pays, qui est quand même extrêmement grave, avec une précarité grandissante, et surtout, moi, je vois une classe moyenne qui est en train de tomber dans la précarité, qui n'arrive plus, compte tenu de l'explosion des charges, qui n'arrivent plus à surnager. C'est ça le vrai risque pour notre pays, et ce n'est pas les considérations de nantis comme les Balkany.
Absolument. Eh bien, c'est parti pour l'interview du Buzz TV, dans laquelle vous allez parler de cette émission que vous avez rejointe en février. C'est ce mois-ci, c'est Face à Hanouna. Donc, face à Hanouna et pas face à Baba, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le titre donc du nouveau talk show diffusé chaque samedi et dimanche sur C8. Alors au départ, c'est vrai que cette émission reposait sur un socle très politique, mais depuis plusieurs émissions, la ligne éditoriale a plutôt évolué. Cyril Hanouna ne s'interdit pas de recevoir par exemple le collectionneur Pierre-Jean Chalençon pour évoquer ses inimitiés avec l'une de ses anciennes camarades d'affaires conclues sur France 2. Il a également reçu récemment l'ex-femme de Christophe de Chavannes pour évoquer la personnalité très controversée de cet animateur. Est-ce que vous avez encore votre place autour de cette table dans ces conditions-là?
Écoutez, si Cyril Hanouna continue de m'inviter pour représenter le Rassemblement National, je répondrai à son invitation avec plaisir. Encore une fois, moi, je n'ai pas de contrat avec, oui, avec la chaîne. C'est lui qui oriente son émission. Moi, je n'ai rien à dire. Je suis invité dans bon nombre d'émissions très différentes. Mmh. Je considère que les émissions de Cyril Hanouna ont un grand intérêt et un atout, c'est qu'elle parle à énormément de monde, oui, et qu'on traite de sujets sérieux d'une manière différente. Mmh. Et moi, je le vois quand je reviens dans Lyon, on me parle de Cyril Hanouna matin, midi et soir.
Ah oui. Voilà.
C'est-à-dire que toutes les classes le regardent, des plus jeunes aux plus anciens, même ceux qui le détestent le regardent, finalement, pour le détester encore plus.
Ils aiment le détester, oui, c'est ça.
Exactement, donc c'est vrai qu'il y a un intérêt, et on arrive à parler de politique, on arrive à faire passer ces messages de manière un peu plus légère, peut-être un peu décalée, qui permet au plus grand nombre, qui ne regarderait pas les chaînes d'infos continues, d'être sensibilisés sur des questions importantes.
Et à ceux qui disent que la table penche trop à droite, qu'est-ce que vous leur répondez? Parce qu'il y a votre présence, bien sûr, mais il y a aussi Carla Bayat-Stendhal, qui est plutôt classée à droite, voire à l'extrême droite. Comment vous répondez à ces remarques et critiques?
Ben, je répondrai comme Valérie Benahim, qu'il y a aussi Rost et Gilles Verdez.
Voilà. Chez nous, d'ailleurs, elle a fait ses déclarations.
Ah oui, tout à fait. Je pense que Cyril Hanouna donne la parole à tous les courants. Voilà. Alors, sauf LFI qui ne vient plus pour tout un tas de raisons. Mais sinon, je pense que les expressions, toutes les opinions sont représentées, peuvent s'exprimer librement. Moi, il m'est arrivé de débattre avec une avocate voilée, par exemple, en face à face sur le plateau de TPMP. C'est ça l'intérêt aussi, c'est que...
Vous aimeriez vous débattre avec LFI, avec vos opposants?
Débat avec tout le monde. Moi, je débat avec tout le monde et je considère que c'est du débat qu'on arrive à grandir et qu'on arrive à faire passer ses idées par la confrontation, dans le respect, évidemment. Mais le débat, c'est très important, effectivement. Si on est sur France Inter avec la même ligne, où on tourne en rond avec les mêmes chroniqueurs, la même ligne éditoriale, finalement, ça ne fait pas avancer les choses. Donc oui, le débat, c'est important.
Quand un animateur ou un présentateur vous sollicite pour intervenir sur un plateau de télévision, est-ce que vous devez systématiquement avoir l'autorisation de Jordan Bardella, le président du RN, et de Marine Le Pen? Vous devez demander cet accord-là avant?
Je ne dois pas demander l'accord. Je suis porte-parole comme certains de mes collègues. Oui. Donc déjà, on est habilité pour représenter le mouvement et pour porter nos propositions dans les médias. Après, il peut y avoir des moments ou des enchevêtrements d'émissions où on va peut-être privilégier, évidemment, le passage du président du mouvement, ce qui est normal. Il va y avoir peut-être des thématiques où on va plus envoyer un spécialiste, un député qui est monté sur le sujet. Mais sinon, je n'ai pas demandé l'autorisation. Et d'ailleurs, la plupart du temps, je réponds aux sollicitations auxquels je suis invité.
Et vous êtes prêt à plaisanter sur votre vie privée? Parce que c'est aussi ça le pendant de Touche pas à mon poste et de tout l'univers autour de Cyril Hanouna, c'est qu'il plaisante sur la vie privée de ses chroniqueurs. Est-ce que ça, vous êtes prêt à jouer le jeu dans l'émission?
Plaisanter, on peut plaisanter et dire des choses sérieuses. Moi, un petit peu de légèreté, ça ne me dérange pas. J'ai une franchise et une liberté de ton que je m'autorise. C'est vrai que je ne suis pas un adepte des éléments de langage, voilà, tout en étant évidemment fidèle à la ligne de mon parti et de mon président. Mais pour autant, je pense que c'est important aussi d'avoir un peu de légèreté et de mêler les deux. Après, je ne confonds pas. Voilà, je suis pas là pour faire du cirque. Je suis pas là pour faire du spectacle.
Vous n'allez pas vous déguiser?
Non, je ne viendrai pas pour carnaval. voilà, je vais pas me mettre à poil sur la table.
Ouais,
ça, j'ai déjà fait.
Attendez, qu'on n'a pas trouvé les archives.
Mais non, c'est pas mon rôle. Les chroniqueurs peuvent le faire. Hein. Moi, je suis là pour représenter des électeurs, un mouvement. Et donc, il y a une certaine gravité aussi, même si on peut dire les choses avec légèreté, même si on peut rire, même si on peut clasher Gilles Verdez assez facilement, mais il y a quand même, à chaque fois, il y a du fond politique et il y a des propositions.
Et votre président était content de vous, Jordan Bardella, de vos premiers pas? Il vous a regardé?
J'ai pas eu de retour, j'imagine qu'il était pas mécontent.
Le carnet de notes n'est pas tombé.
Pas de nouvelles, bonne nouvelle.
Exactement.
Il n'y a pas le conseil de classe qui a eu lieu encore. Alors, c'est vrai que vous l'avez rappelé, vous êtes aussi papa d'un enfant qui vient d'avoir tout juste 9 mois, je crois.
9 mois, le 27 février.
Voilà, vous arrivez à dégager un peu de temps pour lui avec toutes les activités que vous avez?
Ça, c'est une vraie question.
Bah oui, c'est ça, parce que quand vous êtes politique, député, porte-parole, en plus dans les émissions de télévision, c'est...
C'est vrai que je regrette d'avoir trop peu de temps pour ma vie privée, et notamment pour ma famille. C'est un sacrifice que je leur demande. Ma compagne était au courant, donc elle a signé en connaissance de cause, si je puis dire. Mais j'essaye de libérer le maximum pour mon fils, parce que ça passe extrêmement vite, parce qu'il change beaucoup et que c'est important qu'il voit son papa.
Mmh. Et alors, comment vous qualifieriez vos relations avec Cyril Hanouna? Parce que j'avais vu, vous l'aviez qualifié par le passé de pitre,
si je ne me trompe pas.
Et oui, qu'est-ce qui s'était passé d'ailleurs à l'époque? Pourquoi vous l'aviez traité ainsi?
C'était en 2019, c'était après l'affaire du voile. Et donc, il m'avait invité sur le plateau de TPMP. Moi, j'avais reçu la plainte du CCIF 48 heures avant. Et j'avais pas envie de m'exhiber, j'avais pas envie de venir dans ce type d'émission, donc j'avais annulé ma participation. Il n'avait pas supporté. On avait une confrontation, qui avait été un petit peu viril, viril mais correct. Et puis on s'est rabiboché, on s'est reparlé. Je suis revenu dans l'émission 2 ans après. Et puis
Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur?
Après, on avait changé de contexte, et puis son émission, encore une fois, a un intérêt majeur. Et je pense qu'on l'a vu dans la campagne présidentielle. Oui, et puis même dans la campagne présidentielle, l'émission Face à Baba, je trouve, a été la meilleure émission politique, là où Marine Le Pen a pu parler très librement de ses propositions, de son programme, de sa vie. Je trouve que c'était la meilleure émission politique de la campagne présidentielle. Donc, il a vraiment un intérêt... au-delà de l'audiovisuel, même démocratique, Cyril Hanouna.
Absolument, et je crois que d'ailleurs, l'une de ses émissions dans Face à Baba était l'un des records d'audience de la télévision, avec notamment celle avec Éric Zemmour, 2 500 000 de mémoire. C'est vrai que c'était une grosse audience. Alors, on sent que vous êtes aussi, pour vous avoir regardé dans cette émission, assez sensible à l'humour de Cyril Hanouna, et que vous prenez aussi beaucoup de plaisir à intervenir sur des plateaux de télévision. Est-ce que, à l'avenir, je parle peut-être dans 10, 20 ans, vous pourriez vous reconvertir en chroniqueur comme certains responsables politiques l'ont fait par le passé? Je pense notamment à Roselyne Bachelot.
Alors, Roselyne Bachelot n'est pas forcément un exemple, n'est pas forcément mon modèle.
Mais elle est très bien, en tout cas, sur un plateau de télévision.
Oui, mais je pense qu'elle était faite pour ça.
Moins pour la politique, c'est ce que vous voulez dire?
Je ne dirais pas ça. Il ne faut jamais tirer sur l'ambulance. Moi, ce n'est pas dans mon plan de carrière. Après, il ne faut rien exclure. On ne sait jamais de quoi demain est fait. Moi, ce que je souhaite,
peut-être demain, aux grosses têtes, Julien Odoul.
Oui, ça existe encore.
c'est ce qui marche le mieux sur RTL.
Mais ce que je souhaite, c'est véritablement servir mes concitoyens, défendre mes idées et continuer de représenter mes concitoyens, notamment dans le nord de Lyon.
Ouais. Et alors, vous intervenez aussi régulièrement sur CNews et dans l'émission de Jean-Marc Morandini. Oui. Alors, la chaîne d'information continue est régulièrement pointée du doigt, surtout en ce moment. Ses détracteurs lui reprochent un manque de pluralisme. Est-ce que vous, quand vous allez sur cette chaîne, vous vous sentez en famille?
Non, je n'ai pas à me sentir en famille. Moi, je suis en famille uniquement dans mon mouvement politique. Mais quand je vais sur cette chaîne, ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours de la contradiction. Ça ne m'est jamais arrivé sur un plateau de CNews d'être uniquement avec des gens qui pensent exactement...
Mais jamais. On ne vous sert pas la suite.
Jamais. Et d'ailleurs, le seul plateau où j'étais en difficulté, c'était toujours après l'affaire du voile, c'était face à Laurence Ferrari. Sur CNews.
Dans Punchline, oui.
Exactement, où pour le coup, elle m'avait mis mal à l'aise, où elle avait été très offensive, très virulente, et j'en avais beaucoup voulu, d'ailleurs, pour ça, et c'était sur CNews. Voilà, donc il n'y avait aucune complaisance. Sur CNews, il y a du débat, il y a des communistes, il y a des socialistes, toutes les idées peuvent s'exprimer. C'est pas forcément le cas quand je vais sur le service public.
Vous avez le sentiment, vous êtes le bienvenu d'ailleurs sur le service public, parce que généralement, les intervenants qui sont sur les plateaux de CNews, comme Amine El-Khatmi d'ailleurs, qui était sur ce plateau il y a quelques jours de ça, nous disait qu'il n'était pas le bienvenu sur le service public. C'est votre cas?
C'est pas la même ambiance, ça c'est sûr. Il y a des émissions auxquelles nous sommes pratiquement jamais invités.
Lesquelles?
Il y a des débats sur France 5, par exemple.
C'est à vous, ouais, c'est politique, c'est ce soir.
C'est ce soir, c'est l'hebdo, enfin tout l'essai, quoi. Où on peut faire des débats pendant deux heures sur le Rassemblement National sans quelqu'un du Rassemblement National. Où on va nous taxer d'extrême droite, de fasciste, où on va dire tout le mal qu'on pense de nous, et il n'y aura jamais de contradiction. Donc ça, ça arrive assez fréquemment. Et c'est ce que je ne retrouve pas sur CNews. Sur CNews, j'ai à chaque fois de la contradiction, il n'y a jamais une seule ligne qui s'impose. Voilà, il y a du débat, et puis après, les médias ont leur ligne, les présentateurs ont leurs affinités, ont leur sujet de prédilection, et c'est vrai que sur le service public, ça penche nettement, très nettement à gauche.
Alors, le Conseil d'État a demandé à l'ARCOM il y a quelques semaines de renforcer son contrôle de CNews. Le lendemain, le gendarme de l'audiovisuel a publié un communiqué pour indiquer que le temps de parole des chroniqueurs et autres intervenants pourrait être décompté. Ça, c'est une bonne ou une mauvaise idée, selon vous ?
Non, c'est gravissime. C'est gravissime, puisque on arrive dans une dérive du tout contrôle, où on va décortiquer la pensée, les votes, les sensibilités de chaque personne. Si je prends l'exemple, par exemple, de Robert Ménard. Oui. Robert Ménard, on le classe dans quelle catégorie ? Robert Ménard, c'est quelqu'un qui a été élu grâce aux voix du Rassemblement National, qui pourtant défend aujourd'hui Emmanuel Macron et qui est un adversaire du Rassemblement National. Si je prends certains chroniqueurs, est-ce qu'on va aller jusqu'à chercher quels ont été leur engagement de jeunesse ? C'est totalement délirant. Ouais. Alors oui, il faut compter le temps de parole des responsables politiques, des représentants politique, mais après, chaque média doit pouvoir être libre d'avoir les chroniqueurs qu'il souhaite et de ne pas décompter, décortiquer. On rentre dans un régime totalement soviétique.
Le vôtre, d'ailleurs, votre temps de parole est décompté parce que vous faites partie du Rassemblement National. D'ailleurs, sur cette chaîne, vous êtes présent, votre temps de parole sera également décompté. Ça sera décompté aussi. Oui. C'est même moi qui vais devoir faire le calcul, pour être honnête avec vous. Donc, je ne vous remercie pas. D'ailleurs, j'ai appris ça juste avant cette émission. Mais c'est vrai que ça doit aussi limiter parfois votre temps de présence sur certaines émissions. Dans Face à Nouna, par exemple, est-ce que vous êtes limité à cause de ce temps de parole?
Dans tous les médias, on est limité et on peut arriver à un moment donné, surtout en période électorale, où il y a besoin de faire parler tout le monde, où la retransmission des meetings prend énormément de place et de temps d'antenne. Donc oui, là, on peut avoir des chaînes qui se rééquilibrent et donc qui font moins de Rassemblement National, qui font moins de gouvernement, moins de LFI ou autre, ça arrive évidemment. Oui.
Et alors, on ne peut pas vous recevoir sans vous interroger sur les dernières actualités politiques. Hier, le Sénat a adopté le texte visant à inscrire l'IVG dans la Constitution. Emmanuel Macron va convoquer le Parlement au Congrès, ce sera le 4 mars prochain, pour que cette disposition soit définitivement adoptée. Quelle est votre position sur le sujet ?
Je considère que c'est une très bonne chose, je considère que c'est un symbole fort. Mais qu'il ne faut pas oublier l'opération bassement politicienne d'Emmanuel Macron, qui a essayé d'occulter certains sujets, de faire monter une menace imaginaire, puisqu'il n'y a pas de remise en cause de l'IVG par aucune force politique en France,
c'est
aujourd'hui.
C'est ce que disait Gérard Larcher, d'ailleurs, le président du Sénat.
Ça n'existe pas, c'est une réalité.
Il peut y en avoir pour certains, quand ils voient sur CNews qu'il y a une information qui a été
La chaîne s'est excusée.
Publiée cette semaine.
C'était évidemment choquant, et je pense que bon nombre de journalistes ont été choqués. En revanche, il y a une vraie menace pour les droits des femmes et pour l'accès à l'IVG, c'est la montée de l'islamisme. Et la montée de l'islamisme qui n'est jamais contenue, jamais combattue par le gouvernement, qui prétend par ailleurs, défendre le droit à l'IVG et les droits des femmes. Voilà. Donc, symboliquement, moi, je suis évidemment très heureux de ce vote. L'immense majorité du Rassemblement National a voté pour et votera pour lundi. Marine Le Pen a exprimé aussi qu'elle était favorable. Pour autant, il ne faut pas être dupe de la manœuvre de M. Macron qui a fait monter une menace imaginaire.
Hier, nous recevions sur ce plateau la chanteuse Anne Silla. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle a gagné The Voice All Star sur TF1. Elle souhaitait vous poser une question, la voici.
Bonjour. La question que je vais me permettre de vous poser est tout à fait incroyable, puisque c'est: quelle est la pire question que je pourrais vous poser?
Voilà, bon courage avec
excellent.
Ça.
Ah oui, excellent.
En même temps, il n'y a pas grand-chose qui vous choque, qui vous bouscule.
Peut-être, si on peut prolonger.
Ça, c'est la pire réponse que je pourrais vous faire parce que je ne l'ai pas, en fait.
Non, mais c'est vrai que, ceci dit, on a l'impression que rien ne peut vous bousculer. Vous avez un média training, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes entraîné à intervenir sur des plateaux de télévision ou pas?
Non, je m'entraîne avec l'expérience, avec la répétition. Et puis, j'analyse beaucoup mes adversaires, donc j'arrive à anticiper les coups.
Bien. Eh bien, voilà la réponse, Alcino. Je sais pas si ça vous suffit.
Désolé,
en tout cas, ce sera à la sienne. Allez, on poursuit notre émission avec notre dernière rubrique. Au suivant. Allez, c'est la rubrique dans laquelle on va se projeter sur l'invité du lendemain. Et ce vendredi, nous allons recevoir la directrice de France 24, Vanessa Burgrave, qui était connue aussi pour avoir participé à On n'est pas couché sur France 2. Elle viendra nous présenter la nouvelle grille de sa chaîne d'information. Déjà, quel genre de téléspectateur êtes-vous ? Vous regardez quoi exactement ?
Alors, je regarde pas grand-chose parce que j'ai pas trop le temps. Je regarde surtout sur mon téléphone les extraits, les replays, et bah, beaucoup d'infos, beaucoup de politique, beaucoup de chaînes d'infos, effectivement. Et je vais pas souvent sur Netflix. J'ai pas,
vous regardez pas vraiment les séries ? Vous n'êtes pas un fan de fiction ?
Certaines... sont rares, enfin elles sont rares celles qui arrivent à m'accrocher. La dernière c'était Game of Thrones, donc ça date un peu.
Ah oui, ça date un petit peu, effectivement. Bon, ça va, vous m'avez pas non plus sorti Julie Lescaut ou les Cordiers.
Ouais, voilà, voilà.
Là, ça aurait été encore plus
l'honneur
ancien.
L'honneur est sauf.
Eh bien, merci beaucoup, Julien Audoul. Je vous poserai une question aussi à Vanessa Burgrave. Elle sera à découvrir donc demain avec la directrice de France 24. Quant à vous, je rappelle que vous êtes porte-parole du Rassemblement National, député de Lyon, et que vous intervenez de temps en temps dans Face à Hanouna les samedis et dimanches sur C8. Merci beaucoup d'avoir été
merci
notre invité.
Merci.
Et le Buzz TV revient dès demain.